en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, a prononcé une communication à l'Académie des sciences morales et politiques le 14 janvier 2012, dans le cadre des séances hebdomadaires consacrées cette année au thème de la France dans le monde. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette communication intitulée « De la réclame à la communication numérique, l'aventure internationale de Publicis ». Retrouvons Maurice Lévy en séance.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis extrêmement honoré d'être parmi vous. C'est vraiment un grand honneur et je suis très touché aussi de commencer ce cycle. Sans plus attendre, je vais aller au vif du sujet. Le thème qui avait été retenu, c'était de la réclame à la communication numérique, l'internationalisation du groupe Publicis. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette histoire est une histoire de paradoxe. En fait, dès l'origine, notre groupe n'aurait pas dû exister. Marcel Bleustein-Blanchet a créé Publicis en 1926, une petite officine de publicité, et contre le très grand Havas qui existait déjà. Et il rappelle dans ses mémoires, et il me l'a rappelé je ne sais combien de fois, que pour pouvoir passer des annonces, il était obligé d'aller au guichet de l'agence Havas et de payer en espèces sonnantes et trébuchantes. Autrement, son annonce n'était pas prise. Et je crois que ce qui a fait le succès de Publicis se trouve dès l'origine dans cette idée que nous avions à nous imposer contre les autres, que nous étions des challengers, comme on dit, et que la seule possibilité pour nous d'exister était de pouvoir aller beaucoup plus loin, aussi bien sur le plan des méthodes, de la créativité, de l'innovation. Et fin des années 20 et surtout au début des années 30, l'épopée de Publicis a commencé sur l'idée de la qualité et de la créativité et de l'innovation quand ce n'était pas de l'invention. Donc Marcel Bleustein-Blanchet a donné à Publicis non seulement ses fondements culturels et ses fondements de ce qu'on appelle dans notre jargon de culture d'entreprise, mais il a également donné à la publicité ses lettres de noblesse. L'aventure de Marcel Bleustein-Blanchet est bien connue, elle est inouïe, c'est un homme qui a franchi énormément d'obstacles dans sa vie, qui a eu une vie, les Américains disent « larger than life », les Français diraient tout simplement « tout à fait exceptionnel », étant un grand résistant, rejoignant le général de Gaulle, détruisant, sabotant son poste de radio de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber entre les mains des Allemands. Bref, une aventure assez exceptionnelle et puis le retour fin des années 40 et la création ex nihilo de nouveau de Publicis et la chasse aux clients sur une idée essentielle qui est comment faire gagner les clients. Il faut savoir que la France représente aujourd'hui à peu près 2% du marché mondial, que les États-Unis un peu moins de 40%. Et que 75% des décisions d'alignement, on appelle un alignement, c'est le choix d'une agence pour traiter un budget à l'échelle mondiale, 75% sont prises aux États-Unis. Quand on a ces idées en tête, on peut comprendre que la France avait peu de raisons d'avoir deux grands groupes, ce qu'il ne faut pas oublier Havas, parmi les grands groupes de communication. L'autre point, c'est que les États-Unis sont les inventeurs de la publicité moderne et sont les inventeurs du marketing. C'est eux qui ont inventé toutes les règles de marketing et qui ont édicté des normes et un système éducatif qui a permis ensuite de propager ce savoir-faire et qui a été ensuite disséminé à travers le monde, non pas tant par nos universités, mais beaucoup plus par les annonceurs internationaux d'origine américaine et ensuite repris en main par les universités, les grandes écoles européennes et internationales. Enfin, pour bien mesurer le défi auquel nous étions confrontés, il faut savoir que nous sommes dans un pays qui n'aime pas tout ce qui a trait au commerce, au négoce, au profit et donc à la publicité. Nous sommes le pays le plus publiphobe au monde. Les gens, dans l'ensemble, ne comprennent pas que le commerce existe, ne comprennent pas que les intermédiaires existent. Et Nous avons à affronter une opposition nationale plus ou moins larvée, plus ou moins forte. Et c'est probablement ce qui a été un élément assez exceptionnel de la réussite de la publicité française, parce qu'il y a une publicité française. Et dès les années 50, quand Marcel Blessin-Blanchet s'est trouvé confronté à ce côté un peu dur, il y avait même des annonces qui disaient « mon produit est tellement bon qu'il n'a pas besoin de publicité ». Marcel Blessin-Blanchet raconte dans ses mémoires la visite qu'il avait rendue au président de Citroën, qui lui avait dit « écoutez jeune homme, voici 100 000 francs et soyez gentil qu'on ne parle plus de nous, nous avons des produits qui se suffisent à eux-mêmes ». Il avait trouvé que c'était plutôt vexant. Donc il fallait contourner l'obstacle psychologique de la population et en même temps amener les annonceurs. La seule façon pour le faire, ça a été de développer une communication, un type de publicité qui a eu ses heures de gloire et qui était ce qu'on appelait la publicité à la française, faite d'esthétisme, d'élégance, une approche. Vous avez énormément de talents français qui se sont exportés parce que la manière d'approcher la publicité, les Américains, c'est ce qu'on appelle le hard sell, la vente dure. Les Français, c'était le soft sell, la vente douce. Il s'agissait en fait de contourner l'obstacle psychologique et de se faire accepter. Et cette nécessité de franchir cet obstacle nous a conduit à être plus créatifs, plus exigeants, plus innovateurs, plus novateurs même dans notre démarche. Publicis a pris le tournant international assez tôt, avec deux actes fondateurs quasiment la même année, l'un à Francfort et l'autre à Bruxelles, aujourd'hui célèbre. Francfort 58, Bruxelles 58, et Publicis, Marcel Blessin-Blanchet à l'époque, pensait qu'il fallait participer de la construction européenne et amener un savoir-faire et créer des alliances avec des groupes européens. Et puis, c'est resté lettre morte. Nous avions nos deux petites opérations qui n'ont jamais pu grandir. Et c'est en 1972 que Marcel Blessin-Blanchet décide de faire deux investissements importants en achetant coup sur coup deux petits réseaux européens. Le réseau Intermarco et puis ensuite le réseau Farner. Le réseau Intermarco était d'origine hollandaise, le réseau Farner d'origine suisse-allemande. Et j'avais rejoint le groupe en 71, je ne m'occupais absolument pas de ces questions-là. Et nous avons à ce moment-là énormément appris. Nous avons commis pendant 7-8 ans toutes les erreurs possibles et même les erreurs impossibles. Nous nous sommes conduits, possédant les agences, comme des impérialistes, considérant que dans la mesure où nous possédions l'agence, nous devions également imposer nos méthodes de travail, imposer notre façon de voir la publicité, imposer notre vision du monde. Et bien entendu, quand on essaye de vendre des produits aux Allemands, surtout à l'époque, avec la subtilité des campagnes ou la sensualité des campagnes de Diem ou les campagnes de Boursin, je peux vous dire que nous nous heurtions à des échecs. Et le principal échec a été sur les hommes et les femmes qui composaient nos agences, qui disaient « mais c'est pas nous ». Nous n'avons rien à voir là-dedans, cette aventure n'est pas la nôtre. Or, notre métier repose exclusivement sur les hommes et les femmes, rien d'autre. Alors, bien sûr, on peut avoir quelques ordinateurs, on peut avoir quelques recettes, on peut même avoir quelques brevets, mais c'est très peu de choses. Notre véritable actif, ce sont les hommes et les femmes qui font le travail. Et donc, pour prendre des exemples concrets, en 1972, fin 72, après l'incendie de Publicis, nous étions le troisième groupe allemand. En 1980, nous étions en train de sortir d'Allemagne. Nous avions tout perdu. Et la première chose que nous avions perdue, c'était nos principaux clients et nos principaux collaborateurs. Nous avions l'outrecuidance d'aller voir les clients en disant « Attendez, désolé, on a acheté cette agence, mais le travail qui est fait est vraiment dégueulasse. On va vous expliquer comment il faut travailler. » Et ils disaient « Merci, nous on est très contents comme ça. Donc si vous pensez qu'on a accepté ce travail dégueulasse et que nous sommes nous-mêmes des dégueulasses, donc merci, au revoir, et nous repartions. » Et nous avons ainsi vécu une période extrêmement difficile où chaque année, notre chiffre était un peu plus petit que celui de l'année précédente à l'international et nous regagnions un peu à l'époque sur le terrain français. Au milieu des années 80, Marcel Blessel-Blanchet décide de me confier la direction et puis ensuite le changement de structure du groupe avec conseil de surveillance et directoire. Et nous avons à ce moment-là initié un certain nombre de changements. Le premier changement, c'était déjà le changement stratégique sur la réflexion en ce qui concernait le monde auquel nous appartenions. Est-ce que nous avions un destin possible en tant qu'agence européenne dominée par une agence française? Et ma conclusion à l'époque était non, nous n'avions pas de destin possible, ou nous pouvions un jour être international, global, comme on dit aujourd'hui, ou nous ne le serions pas. Et donc, la première réflexion, c'était comment est-ce que nous pouvions devenir un groupe mondial. Et puis, la deuxième réflexion, bien entendu, c'était quel type de modifications devions-nous apporter à notre culture d'entreprise. Et ayant appris que le modèle français ne pouvait pas s'imposer pour quelque chose qui a trait à la culture des gens, à la communication avec les gens, nous devions en tirer les leçons et nous sommes arrivés à la conclusion que l'élément qui allait faire la différence pour Publicis, c'était le respect des cultures et des gens dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs cultures. Et ça a été l'origine de Viva la différence, qui est notre motto et qui est notre socle à partir duquel nous avons bâti toutes nos stratégies. Nous avons tenté une première aventure avec un groupe américain qui était le miroir, qui était en négatif ce que nous étions. Très fort aux États-Unis, très faible en Europe. Nous étions très forts en Europe, quasi inexistants aux États-Unis. Nous avions créé une toute petite agence et nous avions une vingtaine de personnes. Et nous avons fabriqué un accord qui était une alliance. Et quelques années plus tard, cette alliance s'est fracassée à la suite d'un changement de président. Et nous étions confrontés à énormément de problèmes à ce moment-là. Le premier problème, c'est comment sortir de cette alliance, puisque le nouveau président voulait mettre la main sur Publicis, considérant que, franchement, pourquoi une alliance avec un groupe français quand on peut le posséder? La deuxième difficulté, c'est que nous savions que nous allons nous retrouver avec un risque important, puisque Marcel Blessel-Blanchet était assez âgé et un peu fatigué, et que nous savions que ça durerait peu de temps. Et le dernier aspect, c'est comment préserver ce qui avait fait la force de Publicis, c'est-à-dire sa francité, sa culture d'entreprise, et comment pouvoir nous développer à l'international sans nous diluer dans un groupe ou sans perdre le contrôle familial du groupe Publicis. Ce sont toutes ces difficultés, ces défis auxquels nous avions à répondre, et dans un délai extrêmement bref, parce que la globalisation, comme on dit, avancer à grands pas et que les annonceurs prenaient de plus en plus de décisions de concentrer leur budget dans des agences. Et une fois qu'ils avaient pris cette décision, ils confiaient leur budget 50, 60 pays et qu'il était très difficile ensuite de défaire les liens. Une fois qu'un annonceur avait confié ses budgets à une agence dans 60 pays, il n'allait pas revenir 2 ans après pour dire « bon, ça y est, je reviens à la maison ». Et comme me l'avait dit un annonceur à qui j'avais dit « bon, écoutez, donnez-nous du temps », il m'a expliqué « la globalisation, c'est comme une femme enceinte, on l'est ou on ne l'est pas, on ne peut pas l'être à moitié ». Donc, il faut que vous parveniez à nous servir mondialement ou alors il faudra qu'on réfléchisse à d'autres moyens de collaboration, mais on ne pourra pas être votre principal client. À cette époque, dans le milieu des années 90, 95, le mot clé, c'est un mot horrible, en face on n'accepterait pas, qui était l'alignement. Il s'agissait d'aligner les budgets des entreprises sur une seule et même agence. Et donc, dans ce cadre-là, où on faisait partie des bénéficiaires de cette opération ou pas. Et donc à une vitesse impressionnante, puisque en moins d'un an, nous nous sommes installés dans une quinzaine de pays, nous achetions à peu près 2 agences par mois, nous nous sommes adressés à ce que j'appelais à l'époque les résistants. Les résistants, c'était tous ceux qui avaient résisté à la poussée anglo-saxonne, toutes les agences qui voulaient être indépendantes. Et on est allé les voir en leur disant, vive à la différence, vous voulez être différent, vous ne voulez pas être dans un moule anglo-saxon, nous comprenons les différences et nous comprenons les cultures différentes et nous vous proposons de nous rejoindre. En plus, nous n'avons aucune intention d'acheter 100% et nous serons satisfaits avec 60, 70%. Vous nous vendrez le reste plus tard, tranquillement. Et nous avons avancé à marche forcée et nous nous sommes trouvés avec de très très bonnes agences qui avaient toutes refusé de se vendre aux Afro-Américains. Et j'ai compris à ce moment-là aussi tout le parti que l'on pouvait prendre à rester soi-même, c'est-à-dire à ne pas se renier. Dans un monde dominé par l'anglo-saxonité, par la culture américaine, il m'a semblé que finalement, sans le vouloir et sans l'avoir beaucoup réfléchi et conceptualisé, le fait de rester sincère par rapport à nos fondements, à ce que nous étions, était quelque chose qui nous avait énormément rendu service. Et donc, j'avais défini à ce moment-là une approche qui était français de naissance, européen par nature, mondial par vocation. Et ceci permettait de couvrir l'ensemble des aspects et sans avoir à se renier, et bien montrer que nous étions français, nous étions européens, certes, parce que nous sommes européens, et bien entendu, nous ne pouvions pas accepter qu'on nous dénie le droit d'être mondial, et nous sommes battus sur ce front avec, je dois dire, un assez joli succès, et nous avons eu une très, très belle croissance pendant ce temps-là. Et à ce moment-là, on travaillait comme des brutes. Juste pour vous donner quelques chiffres, à cette époque, Publicis, c'était à peu près 6 000 personnes. Et aujourd'hui, on est 60 000, donc en 15 ans. Et Publicis, on était dans une quinzaine de pays européens. Une petite agence, pour ceux qui connaissent New York, au-dessus du cinéma Le Paris à New York. Et aujourd'hui, nous sommes dans 104 pays. Et on se heurtait, dès qu'on avait commencé à prendre un peu la crème, si j'ose dire, la chantilly de ceux qui étaient servis, du gâteau qui nous était offert, mais nous ne pouvions avoir accès qu'à la chantilly. On s'est rendu compte que dès qu'on attaquait le dur, on était confronté à notre problème, et c'est que quand on se présentait quelque part, on avait une difficulté, c'est que bon, c'est sympa d'être français, mais ce n'est que sympa. Et il fallait qu'on puisse montrer une supériorité. Alors bien entendu, la première chose que nous avons faite, ça a été de déterminer des exigences. Et nous avons été extraordinairement exigeants sur quasiment tout. Il nous fallait être plus créatif, plus agressif, plus innovant, plus inventif, plus performant et avec un service plus. Il fallait que n'importe quel annonceur que nous servions à n'importe quel endroit du monde puisse dire « j'ai de la chance, je suis entre les mains de Publicis ». Et il y a eu, pour cette aventure, une énergie, un talent déployé par nos équipes qui était tout juste exceptionnel et devant lequel je reste encore aujourd'hui admiratif de voir l'abnégation, le courage, la volonté. Et puis aussi cette idée, au fond, pardon, parce que ça fait un peu nationaliste, un petit drapeau, on allait se battre avec nos petits poings et on allait planter notre drapeau quelque part, mais sans jamais planter nos clients. Et au bout d'un moment, on s'est dit que si nous voulions véritablement avoir accès aux très grands clients, il fallait qu'on fasse un pas de plus. Et ce pas de plus a été l'acquisition de Saatchi & Saatchi, qui était une agence extrêmement renommée en Angleterre et dans le monde. Pour vous donner juste une idée de ce que ça voulait dire, lorsque nous avons fait cette acquisition, je suis donc allé à Londres présenter cela dans un roadshow, et lorsque j'arrive à Londres, vous voyez tous ces petits panneaux où il y a les titres des journaux qui sont posés, et il y avait « Saatchi goes frog ». Et c'était effectivement ce qui se passait, et ça a été le titre, mais de toute la presse anglaise. Maurice et Charles Saatchi avaient eu un succès extraordinaire. C'était une agence d'une réputation exceptionnelle. Non seulement ils étaient les auteurs d'une campagne « Labour doesn't work » qui avait fait les grandes heures de Mme Thatcher, mais c'était aussi une agence aux succès phénoménaux à travers le monde. Malheureusement, ils ont connu quelques déboires, et en particulier une maladie fréquente chez les publicitaires qui est l'encéphalite. Et ils se sont retrouvés avec une tête un peu disproportionnée par rapport à leur corps. Et ils ont commis un certain nombre d'erreurs, ce qui nous a permis de pouvoir les acheter. Et ça a transformé notre vie parce que tout simplement, quelques temps après les avoir acquis, plutôt que de passer une demi-heure à expliquer qui nous étions, il nous suffisait de dire mais à Dubaï, aussi bien qu'à Shanghai, à Séoul ou en Australie, nous sommes les propriétaires de Saatchi. Ça réglait le problème de la présentation et on n'avait plus besoin d'autres lettres de créance pour expliquer qui nous étions. Ceci nous a permis d'avancer assez fortement et avoir des clients aussi importants que Toyota ou que Procter, qui est l'annonceur numéro un mondial, et de renforcer nos positions de manière assez spectaculaire et de crédibiliser la démarche de Publicis. Ensuite, il s'est passé un phénomène que nous n'avions pas anticipé, qui sont les analystes qui avaient classé grosso modo les agences en tier 1 et tier 2. Première catégorie, deuxième catégorie. Et ensuite, ils ont dit first tier, second tier, et de second tier à second class, il n'y avait qu'un passé mantique à passer. Et ce passé mantique pouvait nous être extrêmement coûteux dans la mesure où nous faisions naturellement, compte tenu de la taille que nous avions, nous faisions partie du tier 2. Donc, dans la deuxième catégorie, la première, il y avait trois grands groupes. Et dans la deuxième, il y avait Publicis, Havas, Dentsu, et puis un certain nombre d'autres groupes américains et autres. Et je me suis dit que si nous restions là, nous risquions de nous trouver un jour avec des patrons d'entreprise qui diraient « Mais pourquoi est-ce que j'irais dans une agence de tier 2 quand je peux avoir les moyens d'aller dans une agence de tier 1 ?» Et que ceci pouvait nous causer un préjudice important. Et c'est là où nous avons eu un peu une intuition. Au lendemain du 11 septembre, je suis allé visiter toutes nos agences. J'ai fait un voyage quelques jours après, c'était le 15 ou le 16, dès que les aéroports ont rouvert, et j'ai été visiter Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago et New York. Et puis, j'ai été confronté au désarroi américain, à tous leurs problèmes. Et dans l'avion, entre ces différentes étapes, je réfléchissais à la prochaine étape de Publicis. Et il se trouve qu'il y avait une agence qui était plus grosse que nous, ou à peu près de notre taille, qui avait un partenaire japonais, Dentsu, et qui avait comme projet de se faire coter en bourse. Et si elle ne se faisait pas coter en bourse en février 2002, Dentsu avait une option pour les acheter. Et je me rappelle très bien, nous étions le 21 septembre à New York. J'ai appelé le CEO et je lui ai dit, ce serait bien qu'on ait une conversation. Nous nous sommes vus. Je lui ai dit, bon, écoutez, on va pas perdre de temps. Je vais vous dire les choses, elles seront un peu brutales et je m'en excuse. C'est une situation très douloureuse pour vous, mais vous avez le choix entre être japonais ou être français. Alors, c'est à vous de décider. Si on se met d'accord, vous serez français. Et vous avez vu comment ça s'est passé avec Saatchi, ça s'est remarquablement bien passé. Et si vous n'acceptez pas d'être français, ben vous serez japonais parce que vous n'aurez plus d'autres possibilités. En aucun cas, vous ne pourrez être américain anymore. Et nous avons engagé une négociation secrète pendant quelques mois. Se rencontrer dans des aéroports, dans des hôtels, comme c'est le mariage pour tous, certains auraient pu penser certaines choses. Et nous avons pu négocier de manière tout à fait équilibrée, intelligente et habile un accord. Et c'est là où Elisabeth Badinter, la fille du président fondateur et qui a pris la présidence du conseil de surveillance à sa suite, s'est montrée une femme extraordinairement soucieuse de l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés. Elle a accepté une dilution et c'est ainsi que nous avons racheté Beacom Street. Et nous sommes entrés dans le tier 1. Et donc nous étions le plus petit des grands, mais nous n'étions plus membres du tier 2. Et nous avons ainsi pu commencer à réfléchir à la manière de nous consolider. Là-dessus est arrivée la bourrasque après le 11 septembre de l'affaire Enron, de l'affaire WorldCom et de la bulle Internet. Et nous avions commencé à réfléchir dès ce moment-là à ce que pourrait être le retour d'Internet. Et j'étais convaincu que la bulle Internet n'était qu'un problème financier et pas du tout un problème d'utilisation d'Internet et encore moins un coup d'arrêt au numérique. J'étais absolument persuadé que le numérique continuerait à se développer, qu'il suffisait de voir ce qu'étaient les innovations, il suffisait de voir partout dans le monde ce qu'était le développement des téléphones portables, des ordinateurs portables, de toutes les nouvelles solutions qui étaient offertes. Et j'ai décidé, dès ce moment-là, qu'il fallait que nous basculions dans le numérique. Et nous avions travaillé d'abord la consolidation de Beacom Street, de Publicis. Et puis ensuite, dès 2005, nous avions défini un nouveau concept qui était The Human Digital Agency, et que nous devions être l'agence numérique la plus humaine au monde, celle qui allait pouvoir réunir le quotient émotionnel avec le quotient intellectuel et les technologies de l'information. Et à tel point, et je vais arriver à la conclusion de mon propos, à tel point que nous sommes aujourd'hui les numéros un mondiaux. Nous sommes aujourd'hui dans ce domaine, la France peut s'enorgueillir d'avoir un champion mondial dans ce domaine, et nous sommes loin de devant tous nos concurrents. Non seulement dans ce qui s'appelle la publicité sur le net, mais sur la technologie et également sur tout ce qui touche le e-commerce, les analytics, aussi bien que les instruments de mesure et de performance de la publicité et de la communication sur le net et sur les instruments numériques. Donc nous avons une position exceptionnelle. Je ne peux pas vous donner des chiffres d'aujourd'hui parce qu'il se trouve que je connais les chiffres de 2012 et que je suis entré dans ce qu'on appelle la période silencieuse. Mais je peux vous dire ce qu'ils étaient récemment et je peux vous assurer que cette année sera une très bonne année, 2012. Nous sommes aujourd'hui un groupe troisième mondial quand on aligne tous les éléments, assez loin du premier et du deuxième qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Ils sont tous les deux à environ 13-14 milliards de dollars de revenus et nous sommes à 9 milliards de dollars de revenus et nous sommes loin devant le quatrième qui est à peu près à 6 milliards de dollars de revenus. Un peu plus de 60 000 personnes, des clients impressionnants et un peu plus de 100 pays avec toujours la même philosophie qui consiste à nous présenter comme un groupe toujours familial. Même si la famille n'a plus tout à fait le contrôle, mais elle joue un rôle prépondérant et une intelligence des besoins de la famille et une intelligence de la famille de l'intérêt de l'entreprise assez unique qui fait qu'il n'y a jamais eu un papier à cigarette entre le conseil de surveillance et le directoire avec une transparence totale entre les deux organes. Français au point que en 2003, au plus fort de la crise entre la France et les États-Unis, quand il y avait la guerre en Irak, beaucoup d'entreprises françaises avaient retiré leur drapeau. Moi, non seulement je l'ai maintenu, mais j'ai pensé qu'il ne fallait pas essayer de cacher ce que nous étions et qui nous étions, que l'hypocrisie en la matière ne paye pas, même si nous devions souffrir. Les gens raisonnables reconnaîtraient, Jean-David le sait très bien, Jean-David Lévite, il était ambassadeur à l'époque et nous avons pas mal travaillé ensemble sur la présence française aux États-Unis, lui de manière exceptionnelle, moi de manière laborieuse. Et s'il y a une seule qualité que nous nous reconnaissons, que je m'attribue de manière peut-être un peu abusive, c'est d'avoir toujours été 5 minutes en avance sur notre temps. D'avoir su à chaque fois prendre le bon tournant et d'avoir su anticiper, pas trop, parce que lorsque vous anticipez de trop, vous êtes tellement en avance que ça sert à rien, on dira ah, c'est dommage, ils ont perdu beaucoup d'argent, mais c'était le bon truc, mais c'était pas le bon moment. Et il faut être juste 5 minutes en avance, et c'est ce que nous avons su faire. L'autre mérite, que non pas je m'attribue, mais que j'attribue à Publicis, c'est une extraordinaire fidélité à nos valeurs. Pas seulement la francité, toutes nos valeurs, valeurs d'éthique, de responsabilité sociale, nos valeurs de rigueur, parfois même de rigidité devant un certain nombre de situations, expliquant à certains monarques ou à certains présidents que nous ne pouvions pas travailler avec eux parce que leur méthode ne nous convenait pas, et c'est pas facile. Et donc, une rigueur qui confinait parfois à la rigidité, mais qui nous a permis d'être toujours propres, impeccable et de pouvoir nous présenter la tête haute. Voilà en quelques mots. Et maintenant, je me tiens, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à votre disposition pour répondre aux questions.
Vous venez d'entendre Maurice Lévy, président du directoire du groupe Publicis, prononcer une communication intitulée « De la réclame à la communication numérique, l'aventure internationale de Publicis » et c'était dans le cadre de la séance hebdomadaire de l'Académie des sciences morales et politiques le 14 janvier 2012. Les retransmissions des séances des académies sur Canal Académie sont en libre accès permanent.